Entre nous. Vous qui partagez désormais le secret de l'histoire de Vincent, je souhaite vous en confier quelques-uns, parfaitement authentiques, grâce à la voix fabuleuse de Bernard Gabay, qui vous donneront peut-être envie de chercher, d'aller musarder dans les rues, et de visiter certains monuments en regardant au-delà des apparences.
Sous ses différentes formes successives, l'église Saint-Pierre de Montmartre constitue effectivement le lieu de culte le plus ancien de Paris. C'est dans ses murs que le 15 août 1534, Ignace de Loyola, Pierre Favre, François Xavier, accompagnés également de Diego Lénez, Simon Rodriguez, Alonso Salmeron et Nicolas Bobadilla, prononcèrent leurs premiers vœux et donnèrent aussi naissance à ce qui allait devenir la Compagnie de Jésus. L'ordre sera reconnu par le pape Jules III le 21 juillet 1550. Ignace de Loyola sera canonisé le 12 mars 1622. L'ordre des Jésuites compte aujourd'hui plus de 16 000 membres actifs sur tous les continents et le pape François, 266e souverain pontife de l'Église catholique élu en 2013, est le premier pape à en être issu. L'édifice, qui fut le théâtre de ses premiers vœux, possède une histoire aussi tumultueuse que passionnante. Le 16 juillet 1661, à la faveur de travaux, une crypte taillée dans le gypse y fut réellement mise à jour. Elle est aujourd'hui inaccessible. Après avoir été amenée à la ruine, l'église échappa à la démolition in extremis grâce au soutien de Georges Clémenceau, alors maire de Montmartre, qui fit voter son sauvetage en 1897. Si vous allez la découvrir, ne manquez pas la pierre tombale d'Adélaïde de Savoie, reine de France et fondatrice de l'abbaye, déplacée depuis l'emplacement supposé de sa tombe au centre du chœur. Observez attentivement les chapiteaux, notamment ceux de marbre provenant d'un temple antique. Vous aurez également l'occasion de vous poser des questions sur la nature de l'étrange carrelage, très inhabituel dans ce genre de lieu. À noter que le cimetière qui jouxte l'église est le plus petit, mais surtout le plus vieux de la capitale. L'ancienneté des tombes lui confère une ambiance réellement exceptionnelle. En 1852, le réseau des égouts qui s'étendait sous Paris comptait moins de 160 km de galeries. En 1870, à peine 20 ans plus tard, à la suite de travaux acharnés, les canalisations de différentes importances couraient déjà sur plus de 500 km. À la fin du XIXe siècle, le réseau d'égouts était l'un des plus denses et des plus sophistiqués du monde, avec plus de 1150 km de tunnels. 50 ans auront suffi pour en creuser 95%. Lors du percement de ces aménagements de salubrité publique, seule une poignée de rapports évoque des interceptions avec d'autres galeries souterraines liées à d'anciennes carrières, dont Paris présente une forte densité, majoritairement sur la rive sud. Les carrières de gypse de Montmartre, parmi les plus anciennes, qui furent exploitées pour alimenter la capitale en matériaux, ont été peu à peu comblées, même s'il en subsiste d'impressionnantes sections aujourd'hui fermées. C'est d'elles que fut tirée la matière première d'une bonne partie du plâtre, obtenu par cuisson du gypse, utilisé dans l'aménagement de la ville et sa décoration, ce qui fait dire aux anciens que Paris contiendra toujours plus de Montmartre que l'inverse. Outre les salles souterraines naturelles creusées par le passage des eaux dans les couches profondes et communiquant parfois avec les nappes phréatiques, ce sont près d'une vingtaine de cavités hors normes, souvent des espaces de dissolution du gypse, qui ont été recensées sous la capitale. L'une des plus spectaculaires, située sous la gare du Nord, fut comblée à des fins de stabilisation dans les années 1980 par l'injection de plusieurs milliers de mètres cubes de coulis de béton. Au cours de ces 20 dernières années, plus d'une centaine de ces injections ont été réalisées dans des proportions variables sous la capitale pour éliminer tout risque d'effondrement. L'agglomération de Paris compte aujourd'hui plus de 200 lieux de culte, très majoritairement chapelles, églises et édifices consacrés. Au XIXe siècle, et particulièrement pendant la période des grands travaux dits haussmanniens, ce sont plus de 80 autres lieux, souvent séculaires, qui furent détruits ou plus rarement reconfigurés. Les spécialistes estiment qu'environ le quart de ces édifices comportaient des cryptes répertoriées ou secrètes. Aujourd'hui, la crypte la plus vaste de Paris se trouve sous l'église Saint-Sulpice. On peut y voir les traces de l'église primitive. En novembre 1881, Rodolphe Salis, négociant en vin, esthète et amateur de poésie, ouvre boulevard de Rochechouart, à Paris, un cabaret qu'il nomme le Chat Noir, parce qu'il en a trouvé un dans le local et l'a gardé. L'endroit, décalé et libertaire, séduit très vite artistes et marginaux qui contribueront à forger l'esprit aussi sulfureux que festif de la butte Montmartre. Le lieu devient à la mode, attirant tout ce que la capitale compte de talents, écrivains, comédiens, musiciens, chansonniers, peintres ou dessinateurs, dont Alphonse Allais, Charles Cros, Toulouse-Lautrec et Aristide Bruand. Le cabaret s'impose comme l'un des premiers vrais lieux interlopes de la capitale à dépasser les clivages sociaux. Il est aussi fréquenté par les mauvais garçons et autres petits malfrats en quête de victimes, ce qui lui vaut des visites plus que régulières de la police. Salis décide de laisser le lieu à Bruand pour partir s'installer dans un bâtiment plus grand, non loin de là, rue Victor Massé. C'est là qu'il développe ses décors fantastiques et sa véritable vision d'un cabaret. Chansonnier au premier étage et théâtre d'ombre, en couleur, au second. La célèbre affiche, créée en 1895 par Théophile-Alexandre Steinlen pour la tournée, alors que l'âge d'or de l'établissement est déjà révolu, lui assurera une place de choix dans l'imagerie du Paris bohème. C'est aussi à cette époque qu'une fièvre liée au spiritisme et aux phénomènes paranormaux s'empare de Paris. Depuis quelques décennies, les miracles ne sont plus l'apanage du religieux et on ne compte plus les spirites, devins et autres mages, tous détenteurs de pouvoirs extraordinaires dont ils font commerce lors de séances publiques ou privées pour une clientèle riche. Dès 1885, on trouve trace de plusieurs de ces personnalités troubles qui tiennent table au Chat Noir. Beaucoup seront confondus et démystifiés, mais certains, plus habiles ou réellement dotés de pouvoir, fascinent et se font une véritable réputation. L'un d'eux, le Grand Orion, se produisait seul, mais était soupçonné d'avoir un jumeau lui permettant d'être vu dans deux lieux à la fois. Il fut accusé d'escroquerie et finit par s'enfuir en Suisse en 1890. À l'époque, il était considéré comme possédant d'authentiques pouvoirs de médium dont il aurait usé pour asseoir son autorité sur une secte. À Paris, à l'angle de la rue Mouffetard et de la rue du Pot-de-Fer, se dresse toujours une fontaine qui fut le décor d'une bien étrange découverte. Construite en 1624, et ayant acquis sa forme actuelle en 1671, elle est composée d'un bâtiment arrondi qui, sur la façade Mouffetard, propose un point d'eau, alors que l'autre côté comporte un accès permettant de pénétrer à l'intérieur. En 1899, lors du remplacement des réservoirs de compensation intérieure, inaccessibles au public, les ouvriers firent une surprenante trouvaille. Dans un double fond de la cuve métallique arrière, ils trouvèrent une soixantaine de pièces d'or, des Napoléons, réunies en trois cylindres de 20 unités. La fortune que cela représentait effraya les ouvriers, qui ne la gardèrent pas pour eux. Personne ne fut capable d'en expliquer la provenance, et le mystère reste entier. En janvier 2015, alors que des travaux étaient effectués dans les sous-sols d'un immeuble à l'angle de la rue Réaumur et du boulevard de Sébastopol, qui fut autrefois le siège social des magasins Félix Potin et abrite aujourd'hui un Monoprix, 8 fosses communes furent découvertes, rassemblant au total plus de 200 squelettes. En 1892, un dénommé Victor Fink, ayant touché un fabuleux héritage d'un parent étranger, créa dans les environs de Montrouge, au sud de Paris, une résidence de charité, destinée aux saltimbanques et aux artistes démunis. La presse s'en fit l'écho, tant l'entreprise était surprenante et l'origine des fonds mystérieuse. L'homme acquit des terres sur lesquelles il fit réaménager plusieurs fermes en auberges afin d'y accueillir ce qu'il appelait les nécessiteux de la fête. Une des fermes était réservée à l'accueil des monstres de foire délaissés ou maltraités. Entre 1989 et 1992, 5 campagnes de sondage du sous-sol parisien ont été organisées à l'aide d'impressionnants camions vibreurs destinés à émettre des secousses dans le sol, dont l'écho sismique est ensuite enregistré par une batterie d'instruments de mesure et d'analyse. Cette technique permet d'obtenir une échographie des couches souterraines profondes. À l'époque, les médias évoquèrent la recherche d'hydrocarbures ou de poches de gaz dans les tréfonds de la capitale. Entre 1397 et 1407, Nicolas Flamel, passé à la postérité en tant qu'alchimiste, se fit bâtir à Paris une maison qu'il n'habita jamais. Aujourd'hui située au numéro 51 de la rue de Montmorency, elle a conservé une grande partie de son apparence d'origine, en dépit de diverses reconstructions partielles, notamment en 1900 lorsque son pignon et ses fenêtres hautes furent modifiés. C'est la plus ancienne des maisons de la capitale que l'on puisse dater avec certitude. Sa façade est classée au monument historique depuis 1911. Elle abrite aujourd'hui une auberge. Flamel y hébergea ouvriers et nécessiteux à la seule condition de prononcer chaque jour une prière. Personne n'a pu expliquer la phénoménale fortune dont Flamel fit souvent un emploi philanthrope, ce qui lui vaut toujours un culte puissant de la part des adeptes de l'alchimie. Sur toute la largeur du fronton, on peut toujours lire l'inscription d'origine. Nous, hommes et femmes, laboureurs, demourances ou porches de cette maison, qui fut faite en l'an de grâce 1407, sommes tenus chacun en droit, soit dire tous les jours une Paternotre et un Ave Maria en priant Dieu que sa grâce fasse pardon aux pauvres pécheurs trépassés. Amen. Magicien d'exception, à l'origine de la plupart des grands principes de son art, grand inspirateur pour ses successeurs, Jean-Eugène Robert Houdin est un personnage hors du commun, inventeur, chercheur, créateur et fondateur d'un théâtre entièrement consacré à la magie. Je n'arriverai certainement pas à restituer l'ampleur de son apport et de sa personnalité en quelques lignes, mais je vous invite à découvrir celui qui a été injustement oublié au profit de Harry Houdini, l'austro-hongrois Erich Weiss de son vrai nom, qui lui aura emprunté son nom et beaucoup de ses méthodes pour faire une médiatique carrière aux États-Unis. Mais revenons au remarquable modèle. Jean-Eugène Robert naît en 1805 et se passionne dès son plus jeune âge pour la mécanique en voyant son père travailler dans un atelier d'horlogerie. Il devient ouvrier horloger à l'âge de 23 ans. Sa rencontre avec un magicien spécialiste de l'escamotage va changer sa vie. En 1830, il épouse Cécile Houdin, fille d'un horloger parisien, et accole son nom au sien. Dans la décennie qui suit, Jean-Eugène Robert Houdin se consacre essentiellement à l'horlogerie et dépose plusieurs brevets d'invention comme le réveil briquet qui s'enflamme à l'heure programmée. Il réinvestit dans ses recherches les fonds gagnés dans la fabrication d'automates et d'objets de divertissement, dont une pendule mystérieuse sans mécanisme apparent. Malgré les difficultés financières, son talent est enfin reconnu. Un mécène lui avance de quoi créer son automate écrivain-dessinateur qui rencontrera un franc succès lors de l'exposition universelle de 1844. Après le décès de Cécile, il se consacre entièrement à sa vocation d'illusionniste. La première de ses soirées fantastiques se déroule le 25 juin 1845. Ses numéros du foulard aux surprises, du pâtissier du Palais-Royal et de l'oranger merveilleux font sensation. Sa notoriété croît lorsqu'il présente la seconde vue, un exercice de divination, et qu'il place en suspension éthéréenne son jeune fils, Émile. En novembre 1846, le succès est tel qu'il faut réserver les places pour ses spectacles des mois à l'avance. Le roi Louis-Philippe l'invite chez lui pour une représentation exceptionnelle. Il se produira également à Londres, devant la reine Victoria. Son propre théâtre se révélera un laboratoire exceptionnel pour les illusions. Trappes dans la scène et systèmes d'escamotage cordés y seront mis au point. Plus tard, Georges Méliès y organisera même des projections de cinématographes et s'inspirera des trucages utilisés par Robert Houdin pour bon nombre de ses films. En 1855, Napoléon III fait appel à lui pour lutter contre les marabouts arabes qui poussent la population à la révolte en Algérie. En juin 1856, Robert Houdin se fait passer pour un tout-puissant sorcier doué de pouvoirs surnaturels grâce à des tours comme le fusillet vivant et le coffre lourd léger. L'influence des marabouts diminuera sans disparaître totalement. Dans sa propriété, Robert Houdin installe de nombreuses innovations. L'ensemble des horloges électriques du domaine sont ainsi branchées à un régulateur électrique et parfaitement synchronisées. Le portail d'entrée du parc est équipé d'une sonnette et d'une gâche électrique qui permet l'ouverture à distance. Il y place aussi beaucoup de ses automates. Robert Houdin déposa également des brevets dans de nombreux autres domaines, et certaines de ses inventions, comme le plastron électrique des escrimeurs ou le compteur kilométrique, sont encore utilisés de nos jours. Il s'est éteint le 13 juin 1871, ne laissant pas moins d'une centaine de tours qui fascinent et inspirent toujours des générations d'illusionnistes. À partir de 1904, un événement agita le microcosme des érudits en Europe. Inexplicablement, près d'une soixantaine de manuscrits, parfois très anciens, datant souvent d'avant 1400, furent remis anonymement à des instituts, des bibliothèques et surtout à des musées. L'opération se répéta essentiellement à Paris, mais aussi à Londres et Rome. Ces documents, d'origines diverses, parfois bien au-delà de l'Europe, furent tous reconnus comme authentiques et d'une valeur inestimable. On ne fit pas immédiatement le rapprochement entre les différents legs et personne ne réussit à déterminer qui les avait remis gracieusement et surtout pourquoi. La thèse, officiellement retenue, en attribue le crédit à un mystérieux collectionneur ayant sans doute réuni ces pièces exceptionnelles illégalement et qui, sentant sa fin venir, n'avait pas pu se résoudre à les détruire. L'enquête ne fut pas menée en profondeur, car à la même époque, une affaire d'escroquerie emballait bien davantage l'opinion. Un immense trafic d'os de Diplodocus venait d'être mis au jour. Pendant des mois, des centaines de crédules avaient acheté à prix d'or des os préhistoriques qui n'étaient en fait que des fémurs de chevaux ou de bœufs vieillis dans des bains chimiques. On parla à l'époque de l'escroquerie du siècle. Il y en eut bien d'autres.